Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition des 19h30, temps universel du mercredi 27 mars 2019. Abdourahman Diaye et John Lyndon à la présentation. Voici les titres.
Charles Blé Goudé, acquitté récemment par la CPI, appelle les Ivoiriens à oublier la vengeance ou la revanche au nom de la réconciliation.
Nouvelles attaques meurtrières de Boko Haram dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger. Bilan, 10 morts et 8 blessés.
Au Burundi, 3 jeunes filles mineures sont sorties de prison. Elles étaient accusées d'avoir gribouillé une photo du président Nkurunziza.
Après le passage dévastateur du cyclone Idai en Afrique australe, le choléra a fait son apparition au Mozambique.
L'ex-premier ministre algérien Ahmed Bouyaïa réclame à son tour la démission du président Bouteflika.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au Niger, au moins 10 civils ont été tués, 7 blessés hier soir dans un attentat suicide et une attaque djihadiste à Ngimki dans la région de Difa. Le point avec Nathalie Barche.
Une des kamikazes s'est faite exploser à l'intérieur du camp de la gendarmerie et la deuxième entre la mairie et la préfecture, a indiqué le maire de la localité, Abba Kaya Issa, ajoutant que des hommes armés ont mené une attaque dans le quartier d'Ileram. Selon des habitants, des maisons ont été incendiées et des femmes et enfants touchés par les éclats ont été évacués à l'hôpital. Samedi dernier, une série d'attaques a fait 14 morts dans 4 villages. Les 2 femmes ont été enlevées à Guesquerou. Jeudi dernier, les islamistes ont tué 8 personnes à Karidi. Et depuis le 16 février, 14 soldats ont été tués dans cette région frontalière du Nigeria. L'armée assure avoir tué 33 terroristes le 12 mars lors d'une vaste opération de ratissage et elle a affirmé fin 2018 en avoir tué plus de 200 lors d'une offensive d'envergure dans le bassin du lac Tchad.
Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais toujours en liberté conditionnelle, a appelé les Ivoiriens a oublié toute vengeance ou revanche après la crise post-électorale de 2010-2011, au cours de laquelle 3000 personnes sont mortes. Eki Abadou.
Je n'encouragerai aucune tentation de violence ni velléité de revanche. Vengeance sur vengeance, revanche sur revanche ne feront que précipiter notre pays dans l'abîme, le chaos, bref dans un déclin irréversible, a écrit Charles Blé Goudé dans une lettre aux Ivoiriens. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la vraie voie vers la rédemption, affirme M. Blé Goudé, qui a souvent été critiqué pour la virulence de ses propos. L'ancien président Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé ont été libérés sous caution, dans l'obligation de résider dans un État membre de la CPI, en attendant un éventuel procès en appel. M. Gbagbo réside pour le moment à Bruxelles et M. Blé Goudé est toujours aux Pays-Bas, car aucun pays n'a accepté de l'accueillir.
En Côte d'Ivoire toujours, le polémiste et militant anticolonialiste Kémi Séba, français d'origine béninoise, a été expulsé de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, invoquant des risques de troubles. Il nous avait été rapporté des risques potentiels de troubles par rapport à une manifestation qu'il comptait organiser sur le territoire d'Abidjan, a justifié le porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Kémi Séba, qui était arrivé le 23 mars à Abidjan, devait animer dimanche un meeting de son association Urgence panafricaine à Yopougon, quartier populaire du nord d'Abidjan.
Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto, président du MRC, incarcéré depuis 2 mois à Yaoundé, dénonce depuis sa prison une exclusion lâche de l'opposition des élections régionales qui doivent avoir lieu cette année dans le pays. Le gouvernement camerounais a enclenché une procédure visant à modifier le code électoral et à définir les conditions de l'élection des conseillers régionaux qui devraient se tenir en 2019. Il s'agit, estime Maurice Kamto, d'un processus exclusif et lâche visant notamment à éliminer les concurrents politiques les plus sérieux du RDPC, parti au pouvoir, parmi lesquels le MRC.
République démocratique du Congo, 14 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une mine artisanale de cassitérite provoquée par des pluies diluviennes dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays, selon des sources locales. Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Nyamibwe, une localité minière située à environ 100 km au nord de Bukavu, capitale de la province. La cassitérite, principale minerai de l'étain, est indispensable à la production des téléphones portables, des appareils photonumériques et de nombreux matériels électroniques.
Félix Tshisekedi est attendu ici aux États-Unis du 3 au 5 avril prochain. Le porte-parole du département d'État, Robert Paladino, a indiqué hier que M. Tshisekedi rencontrerait le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il a également déclaré que Washington partageait l'intérêt du président Tshisekedi d'établir un partenariat solide entre les États-Unis et la République démocratique du Congo.
Au Burundi, les trois jeunes filles âgées de 14 à 17 ans sont sorties de la prison pour mineurs à Ngozi, au nord du pays. Dans le nord du pays, les parents saluent le geste de la ministre burundaise de la Justice, mais demandent que ces élèves retournent à l'école. Leur détention pour avoir gribouillé la photo du président burundais avait provoqué un tollé. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Après 6 jours de détention dans les provinces de Kirundo et Ngozi au nord et nord-est du Burundi, Lélise Consolat et Micheline sont enfin libres de la prison pour mineurs de Ngozi. Ils ont directement été conduits dans leur province à l'aide des voitures de transport. Le procureur près de la cour d'appel de Ngozi a indiqué que les investigations judiciaires continuent, mais l'avocat des trois écolières, Prosper Yanzira, demande leur acquittement car aucun indice sérieux de culpabilité n'est perceptible. Il indique que ces livres passaient de main en main et qu'il est difficile de pointer du doigt les élèves qui auraient gribouillé les photos du président Pierre Nkurunziza. Parents et élèves n'ont pas caché leur joie lorsque le procureur près la cour d'appel de Ngozi, province natale du président burundais, a libéré provisoirement les trois écolières. Les associations pour la défense des droits des enfants demandent que ces enfants retournent immédiatement poursuivre leur cursus scolaire. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Mozambique a confirmé l'apparition du choléra dans la région de Beira, dévastée par le passage du cyclone Idai qui a fait près de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Le point avec Yacouba Ouidraogo.
Nous avons 5 cas de choléra confirmés à Beira et ses environs, a déclaré Youssène Issé, directeur national de la santé. Il a averti qu'il y en aura plus parce que le choléra est une épidémie. Selon M. Issé, 1 million de doses de vaccins vont arriver ce week-end dans la région. Dès dimanche, le ministre de l'Environnement, Celso Correa, avait prévenu qu'une épidémie était inévitable compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent les rescapés. Le cyclone Idai a touché Beira puis a poursuivi sa route vers le Zimbabwe voisin. Maputo a recensé au moins 468 morts sur son sol. L'Organisation internationale pour les migrations a fait état de 259 morts au Zimbabwe. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a estimé à au moins 250 millions d'euros le montant de l'aide nécessaire au Mozambique pour les 3 prochains mois.
Le pape François est attendu samedi au Maroc, invité par le roi Mohamed VI. Pour l'archevêque de Rabat, cette visite est une occasion unique de montrer que le Maroc valorise plus ce qui unit que ce qui divise. Le Maroc compte 30 000 à 35 000 catholiques. Le Vatican a par ailleurs annoncé ce mercredi que le pape François effectuera début septembre un voyage de 6 jours au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice.
Toujours au Maroc, 4 journalistes et un parlementaire ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 920 euros chacun pour publication d'informations considérées comme confidentielles. Ils avaient publié des extraits de débats d'une commission d'enquête parlementaire sur le déficit de la caisse marocaine de retraite. Pour Mohamed Ahedat, l'un des journalistes condamnés, ce verdict rendu par le tribunal de première instance de Rabat est contre la liberté d'expression.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Boeing a présenté ce mercredi à la presse et aux professionnels les modifications sur son 737 MAX pour tenter de rétablir la confiance après deux accidents qui ont fait au total 346 morts. Le constructeur américain a promis de tout faire pour que cela n'arrive plus jamais. « Nous allons tout faire pour nous assurer que ce type d'accident ne se reproduise plus », a promis un responsable de Boeing. Les modifications donnent davantage de latitude aux pilotes pour contourner le système de vol mis en cause dans les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines en octobre et en mars et améliore aussi la formation des équipages sur son fonctionnement.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit discuter cet après-midi du Golan lors d'une session d'urgence à la demande de la Syrie. Damas exige la restitution de ses territoires annexés par Israël et que Donald Trump considère depuis lundi comme faisant partie d'Israël.
Et puis la justice chilienne a condamné ce mercredi l'église chilienne à indemniser des victimes du prêtre Fernando Caradima, accusé d'agressions sexuelles multiples sur des mineurs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Relance hier des travaux de construction du barrage de Tandadi sur le fleuve Niger à 180 km de Niamey. Ce barrage devrait permettre d'irriguer 45 000 hectares de terres agricoles. Tandadi sera doté d'une centrale d'une puissance de 130 MW pour aider à résoudre le problème d'électricité récurrent dans le pays. Estimé à 740 milliards de francs CFA, ce barrage sera réalisé par une entreprise chinoise dans un délai de 58 mois. Les profits d'EcoBank Côte d'Ivoire l'an dernier s'élèvent à 20,7 milliards de francs CFA, soit un recul de 22% par rapport à 2017. Cette entreprise avait habitué les investisseurs à une croissance continue depuis 13 ans. Les causes de ce repli n'ont pas été révélées. Mais Financial Afrique écrit que la faillite de SAF Cacao pourrait être en grande partie responsable de cette contre-performance. EcoBank y a perdu 15,5 milliards de francs CFA. Pour terminer, les exportations de café ougandais ont chuté de 17% en février à cause de l'insuffisance des pluies dans certaines régions productrices, selon l'organisme de réglementation du café en Ouganda. Le mois dernier, les exportations de café ont totalisé 323 828 sacs de 60 contre 390 677 sacs le même mois l'année dernière.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'équipe nationale de football du Gabon a été dissoute.
Oui, l'annonce a été faite ce soir par le ministre des Sports gabonais, qui a aussi demandé à la Fédération gabonaise de football de virer l'entraîneur Daniel Cousin et son staff. Écoutons Alain-Claude Billy Binzé.
Nous avons pensé qu'il fallait aujourd'hui même confier à la FEGAFOOT la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 60 jours maximum. Deuxièmement, mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Aussi, l'équipe nationale des Panthères a, dans sa formation actuelle, est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, un manque de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières à gagner en oubliant la nation et l'esprit d'équipe.
Alain-Claude Billy Binzé, ministre des Sports du Gabon, au micro d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le Mali s'est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des Espoirs.
Oui, les Aiglons maliens ont battu l'Éthiopie sur le score de 4-0. À l'aller, les deux équipes avaient fait un match nul d'un but partout. Au troisième et dernier tour, le Mali affrontera la République démocratique du Congo. Dans les autres oppositions de ce dernier acte, on aura des chocs comme Côte d'Ivoire-Guinée, Ghana-Algérie et Cameroun-Tunisie. À suivre aussi Zambie-Congo et Soudan-Nigeria. Les sept vainqueurs se qualifieront pour la CAN des moins de 23 ans qui aura lieu en Égypte en novembre prochain. Les pharaons espoirs sont d'office qualifiés en tant que hôtes de la compétition. Autre enjeu de cette CAN des espoirs, les trois premiers se qualifieront pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
En NBA, Miami retire le maillot de Chris Bosh.
Oui, Miami a célébré la carrière de Chris Bosh, ancien coéquipier de LeBron James et Dwyane Howard, lors des sacres de 2012 et 2013 en retirant son maillot. L'honneur suprême pour un joueur NBA, ce n'est pas juste une superstar, c'est surtout un incroyable être humain. Chris Bosh est à jamais un joueur du Heat, a déclaré Pat Riley, le président de la franchise floridienne, en ouverture d'une cérémonie organisée à la mi-temps du match perdu par le Heat face à Orlando, 104-99.
Merci Yacouba.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia et John Lydon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga est en visite aux États-Unis. À New York, il va discuter du renouvellement de la mission des Nations Unies dans son pays. Et ici à Washington, il évoquera avec les autorités américaines de la coopération entre les deux pays. Modibo Dembélé lui a demandé ce que le gouvernement malien fait pour combattre le terrorisme et mettre fin aux violences intercommunautaires dans le centre du pays.
Ma visite aux États-Unis a pour objet de rencontrer les autorités américaines, en particulier celles qui interviennent dans les questions de politique étrangère et de sécurité, pour examiner avec elles, d'une part, le renforcement de nos relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et des investissements, et d'autre part, pour échanger sur la question relative à la poursuite et au maintien de l'AMINUSMA dans notre pays, et que nous avons besoin de plus de présence américaine chez nous, à la fois dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine des investissements, où nous voulons attirer des entreprises américaines, notamment dans les secteurs de l'énergie, des ressources minières. Le maintien de l'AMINUSMA est important, dans la mesure où toute remise en cause de sa présence pourrait remettre en cause des acquis qui restent encore fragiles dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Ogo Sago, plus de 150 morts, plus de 70 blessés. Monsieur le Premier ministre, comment réagissez-vous face à cette énième attaque contre de paisibles citoyens?
Face à cette attaque, je suis horrifié par ces massacres dont personne ne pensait qu'ils pouvaient se produire chez nous par la télévision. Nous pensions que c'était uniquement l'apanage de plus barbares. C'est une barbarie inqualifiable. C'est pourquoi le président de la République a instruit au gouvernement de prendre les mesures qui ont déjà été la dissolution de l'association d'Anna Massagou, qui a été créée pour, entre autres, la promotion de la culture d'Ogon s'est petit à petit écarté de cette vocation, dans la mesure où quelques jours avant ce massacre, elle avait annoncé par voie de communiqué qu'elle organiserait des patrouilles pour sécuriser les populations. Il appartiendra aux enquêtes de dire qui est responsable.
De plus en plus, beaucoup de voix s'élèvent au Mali pour demander à ce que les officiers supérieurs militaires soient envoyés sur le front de la guerre et non dans les ambassades et les consulats. Comment réagissez-vous face à ces allégations?
Bon, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Nous allons relever le niveau du commandement un peu partout. Toutes les armées conventionnelles ont beaucoup de difficultés face au type de situation auxquelles nous sommes confrontés. C'est une confrontation asymétrique contre des adversaires aux mille visages ou sans visage du tout. Une des stratégies des groupes terroristes, c'est d'exacerber les conflits entre les communautés, de manière à détruire le tissu social et à discréditer la puissance publique, faire en sorte qu'il n'y ait plus de pouvoir autre que le leur. Nous avons entrepris d'organiser à l'initiative du président de la République une série de rencontres depuis les villages pour monter jusqu'au niveau de la région afin d'aboutir à un forum sur la paix et sur la réconciliation dans ces zones.
C'était le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga de passage ici à Washington.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Martin Fayulu est également en visite ici aux États-Unis. Il a réagi aux sanctions américaines à l'endroit des dirigeants de la CENI, de la RDC. Il évoque aussi un possible dialogue, mais continue à exiger la vérité des urnes. Idi Sango l'a reçu dans nos studios ici à Washington. Voici un extrait de son entretien.
Quand les États-Unis avaient pris des sanctions contre certaines personnalités, sanctions limitées au visa seulement, nous avons dit non, il faut aller plus loin. Sanctions au niveau du Trésor. Et nous sommes d'accord, et cela prouve à suffisance que le processus a connu beaucoup d'irrégularités. Cela prouve à suffisance que les résultats qu'ils ont communiqués, ce sont des résultats fabriqués, et nous voulons qu'ils aillent plus loin. Punir, sanctionner aussi ceux qui ont bénéficié de ces irrégularités.
Vous avez bénéficié de l'appui des autres leaders de la coalition Lamuka, et certains pensent que ce sont des béquilles qu'on peut vous arracher à tout moment.
Lamuka, c'est un esprit, c'est le peuple. Les leaders, nous sommes là parce que la volonté du peuple. Et donc, nous continuons avec cet esprit Lamuka. Nous avons réaffirmé tous cette volonté de vivre ensemble, de demeurer ensemble et d'avoir notre unité. Et je continuerai à être avec mes amis pour aller de l'avant.
Vous avez récemment évoqué la question du dialogue. En même temps, vous rejetez la main tendue de M. Félix Tshisekedi.
La vérité des urnes passe par deux étapes. Récompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, ce que nous avons réclamé, ce que nous avons dit à la Cour constitutionnelle de faire. La Cour n'a pas fait ça. La deuxième façon d'avoir la vérité des urnes, c'est de refaire les élections comme Juan Guaido est en train de demander au Venezuela. Et c'est là, nous disons, il faut discuter pour aller dans ce sens-là.
Vous avez entamé votre tournée par, je crois, la Belgique. Vous êtes passé par la France et vous êtes aux États-Unis. Mais tous ces pays ont dit qu'ils soutenaient ouvertement le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Ils n'ont pas dit qu'ils soutenaient ouvertement. Personne n'a félicité ouvertement. Ils ont pris acte. Quand le ministre français des Affaires étrangères dit que ce qui s'est passé au Congo, c'est un compromis à l'africaine. Quand le président français Emmanuel Macron demande à M. Félix Tshisekedi de s'émanciper de M. Kabila, trouvez-vous pas ça insultant? Ne pensez pas et vous ne comprenez pas par cette phrase que « Monsieur, vous avez été mis là » par M. Kabila, nommé par M. Kabila, est-ce qu'il y a moyen que vous vous sépariez de lui? Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer l'accord que vous avez signé, l'accord sous sein privé? Donc, je ne comprends pas. Non, c'est M. Félix Tshisekedi, là où il est, ne peut pas se sentir à l'aise parce que il est dirigé par M. Kabila, parce que les gens lui demandent de s'émanciper par rapport à Kabila, c'est-à-dire de briser encore l'accord qu'il a signé, comme il s'est retiré de l'accord Lamuka de Genève.
L'opposant congolais Martin Fayulu.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En France, la mort d'un ex-espion français suscite nombre d'interrogations. Le corps de Daniel Forestier, 57 ans, a été retrouvé le 21 mars sur un parking, le corps criblé de balles. Il avait été inculpé en septembre dans un projet d'assassinat du général Ferdinand Mbaou, opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, réfugié en France depuis près de 20 ans. Idriss Fall a recueilli la réaction du général Ferdinand Mbaou.
C'est la tristesse, parce que je suis un chrétien et la mort d'un être humain me rend triste. Mais en plus, je suis un soldat, je suis un général formé, et j'ai l'esprit chevaleresque. Le corps de mon ennemi ne m'enchante pas, je suis vraiment très attristé pour ces deux raisons.
Mais il avait été inculpé pour une tentative d'assassinat sur votre personne, non?
Oui, oui, en effet. Mais ça, la justice se suit son cours. Jusqu'à ce qu'on ait appris cette nouvelle, la justice suivait son cours. Et j'espère que, oui, la justice va continuer à suivre son cours et elle passera.
Mais ce sera plus difficile parce que, quand même, la personne inculpée a été assassinée. Donc, ça va compliquer l'enquête, non?
Bon, je ne rentre pas trop dans ces détails-là, mais en tout cas, toujours est-il que ils étaient en bande organisée. Qui parle d'une bande parle plus d'une personne. Et donc, s'il y a une personne qui n'est plus là, ben, le reste de la bande qui avait été inculpée avec lui probablement permettra à la justice de suivre son cours. En tout cas, je suis très confiant. Mais je répète, ça, c'est des questions que je ne maîtrise pas. J'ai mes avocats, j'ai un pôle d'avocats, ça ne nous inquiète pas outre mesure.
Vous êtes réfugié en France depuis près de 20 ans, vous êtes opposant au président Denis Sassou Nguesso. Pouvez-vous revenir, rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé ce jour-là, on a tenté de vous assassiner?
Il y a deux faits. Le premier fait, la première tentative d'assassinat à laquelle j'ai échappé, c'était à côté de chez moi, on avait tiré sur moi, j'ai des balles à côté du cœur. Donc ça, c'était la première fois. Et là, la justice était aussi en train de suivre son cours. Mais le cas dont nous parlons, c'est donc la deuxième tentative d'assassinat, et cela, avant qu'il ne passe à l'acte, les services de renseignement avaient mis la main sur eux. L'affaire est poursuivie en justice. Donc ça fait deux fois. La première fois, j'ai échappé, j'ai des balles dans le corps. Et la deuxième fois, comme je dis, avant qu'il ne passe à l'acte, ben, ils avaient été arrêtés, notamment celui qui vient de perdre la vie là.
C'était le général Ferdinand Baoujouin en France.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le dernier magazine de la revue féminine du Vatican est attaché au quotidien officiel du Saint-Siège, doit théoriquement être publié le 1er avril. La fondatrice et toute l'équipe de rédaction de ce mensuel du Vatican consacré aux femmes ont démissionné en bloc. Elles dénoncent une tentative de mainmise masculine sur leur travail. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint en Pennsylvanie, ici aux États-Unis, un professeur des cours sur la relation entre religion à Dickinson College, Jean-Pierre Carigay.
Le mensuel féminin était le seul magazine féminin de Rome et faisait partie de l'Osservatore Romano, qui est un organe officiel du Saint-Siège. Et rappelez-vous aussi que ce mensuel avait été créé du temps de Benoît XVI, qui est plutôt dans le sens de conservateur, mais aussi un intellectuel critique et averti. C'est vrai, la revue jouissait d'une certaine liberté. Dans ce sens-là, on peut parler de déception aussi. Donc, de ce côté-là, oui, on peut parler d'un coup dur dans une certaine mesure, je dirais dans une certaine mesure. Non, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait aussi attendre d'une institution qui est masculine par son essence?
Mais une démission en bloc, c'est quand même inédit.
Oui, oui, mais l'Église est en train de passer une certaine transition. Je parlerai peut-être d'une crise de sens. Et quand il y a une crise, évidemment, il y a une confrontation, il y a plusieurs points de vue. Et dans ce sens-là, oui, il y a un problème. Mais cette crise, mais qui est liée beaucoup plus, me semble-t-il, au renouvellement de l'Église. Bien que certaines des réformes viennent de François Ier, du moins entretenues ou supportées par François Ier, mais il y a aussi au sein de l'Église une certaine ère qui est conservatrice. Et donc face à ça, je crois que la crise qui se passe, pour moi, me semble est positive, dans la mesure où elle annonce une certaine transition. Donc oui, il y a démission en bloc, mais après, c'est aussi un symbole, c'est aussi un signe. Le fait même de démissionner, ça montre qu'il y a une certaine prise de parole par rapport à l'Église comme institution, mais ça montre aussi que cette parole des femmes, d'où qu'elles viennent, que ce soit à l'intérieur du Vatican, que ce soit à l'extérieur, peut être aussi entendue. Donc ça signifie que la prise de parole a commencé et elle ne peut pas s'arrêter avec certaines positions du Vatican.
Et quel pourrait être l'impact de l'arrêt de cette publication?
Je crois que le vent qui souffle pour le moment au sein de l'Église, les changements qui vont se porter sur avec François Ier, mais aussi avec le peuple de Dieu, qui prend de plus en plus conscience de certaines attitudes de l'Église et surtout du côté masculin de l'Église avec tous les abus qu'il y a. Et je crois que ce vent ne sera pas arrêté. Donc, la démission participe à cette révolution. Et alors, la parole viendra de n'importe où.
Jean-Pierre Carreguet, professeur à Dickinson College.
Et voilà qui met fin à cette édition mise en onde par Cheikh Kero, à la console Justin. Présentation Abdourahmane Dia et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.